Bienvenue dans le troisième module du cours grâce auquel vous apprenez à développer un site web en PHP et à le déployer ensuite dans Azure, l'environnement cloud de Microsoft. Dans le cadre de ce troisième module, nous allons commencer le développement de notre site web et ce sera l'occasion dans ce premier module concernant le développement PHP de entrer dans les fonctionnalités de base de PHP. Ce n'est que dans le module suivant, le module numéro 4, que nous aurons l'occasion d'aller un petit peu plus loin quant au développement PHP et nous y découvrirons des notions un petit peu plus avancées du développement avec PHP. Un coup d'œil sur l'agenda de ce module. Nous commencerons par parler un tout petit peu de l'environnement de développement dans lequel nous allons travailler dans le cadre de ce projet. Je vous présenterai ensuite rapidement le projet. Nous le créerons ensemble et puis nous pourrons ainsi entamer immédiatement derrière le développement de notre première page. Alors, l'environnement de développement qui est choisi dans le cadre de ce module, c'est la plateforme Windows avec l'outil WebMatrix que nous avons installé dans le module précédent. Alors cela n'exclut en rien que vous qui travaillez sous Mac ou sous Linux puissiez accomplir ce module. La seule chose que vous ayez à faire, c'est ouvrir, éditer le fichier index.php que nous avons réalisé dans le premier module pour y injecter tout le code que nous ferons ensemble, nous dans WebMatrix, mais vous au sein de votre éditeur préféré, dans votre environnement Mac ou Linux. Le projet, ce sera simplement de lister un ensemble de films récemment sortis au cinéma, une dizaine de films. Dans le cadre de ce troisième module, nous ne ferons que réaliser la première page, celle qui va lister cette dizaine de films. Et dans le module suivant, le module numéro 4, nous aurons l'occasion de développer la page de détail également. Et dans ces deux modules, 3 et 4, nous allons tenter d'améliorer un petit peu la présentation de notre site web en utilisant un framework CSS qui s'appelle Bootstrap. Alors je vous propose de commencer, nous allons créer le projet dans WebMatrix et ensuite nous entamerons directement le développement PHP de cette première page. Alors nous allons lancer WebMatrix, voilà qui est fait. Nous allons créer en cliquant sur le bouton du centre, puis ensuite sur la mention, la commande empty site pour créer un nouveau site web vide. Donc on part de zéro comme prévu. On passe cette étape puisque pour l'instant on ne souhaite pas créer de site web sur Azure. Nous allons tout de suite renommer notre projet MVA Films, créer soit en faisant un clic droit ici, soit en cliquant sur le lien présent au centre, notre nouveau fichier index.php. Donc je vous rappelle que ce fichier index.php, c'est celui qui va être appelé par défaut par l'ensemble des serveurs web 2IS, 2IS Express ou Apache. Donc voilà, notre premier fichier index.php est créé. Comme on l'a vu dans le module précédent, WebMatrix nous assiste un petit peu en ajoutant tout de suite des balises d'ouverture et de fermeture de code PHP et un tout petit bout de code HTML5. Alors ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est écrire une nouvelle variable $title. Une variable, donc c'est un conteneur qui en PHP est toujours nommé en commençant par $ et par convention, en général, on nomme ces variables en anglais. Ensuite, on a fait suivre le nom de cette variable de égal, qui est le symbole d'affectation, parce qu'on souhaite affecter en effet à cette variable une valeur qui va être dans notre cas ici une chaîne de texte, mais qui dans d'autres cas pourrait être un nombre, pourrait être un objet. Donc il y a plusieurs types de valeurs possibles qu'on peut affecter à une variable en PHP. Donc ce qu'on va faire ici, c'est écrire notre titre, ma liste de films. Bon, rien de très originales, mais l'idée, c'est plutôt de voir comment ça fonctionne en PHP, l'écriture d'une valeur dans une variable. Alors, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a envoyé donc notre chaîne de texte, notre titre, dans la variable $title. Vous allez me dire, on aurait pu très bien écrire le titre directement entre ces deux balises title ici. Le truc, c'est qu'on a envie aussi de rajouter ici une balise H1 dans laquelle on va également vouloir écrire le titre. Alors, si on l'avait écrit en dur à cet endroit-là, c'est-à-dire à la fois dans la balise title et à la fois dans la balise H1, ça veut dire que ça voudrait dire que si un jour on veut faire un changement, il faut le faire à deux endroits. Donc, pour éviter cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit justement cette variable de façon à centraliser l'écriture de notre titre. Donc tout ce qui nous reste à faire ici, c'est à afficher toujours entre des balises d'exécution de code PHP, ouvrante et fermante, à afficher notre titre à la fois ici entre les balises title et ici entre les balises H1. Je vais y arriver. Voilà. Presque. Voilà. On peut déjà vérifier que ça fonctionne bien. Alors je vois qu'il y a une erreur. Il manque ici le point d'interrogation pour fermer la balise PHP. Donc on corrige ça et on appuie sur le bouton Run en haut à gauche de WebMatrix et on voit que tout se passe bien. Mon titre apparaît correctement ici. Et dans la balise H1, et il apparaît correctement ici dans le titre de l'onglet de mon navigateur, ce qui correspond à l'affichage de la balise de la variable title dans la balise title de l'en-tête de ma page HTML, de mon code HTML. On revient dans WebMatrix, et ce qu'on va faire, c'est justement modifier notre titre de façon à lui ajouter derrière la date courante. Pour ça, nous allons créer ici, juste avant la variable title, une nouvelle variable, currentDate, à laquelle on va passer la fonction native de PHP qui s'appelle date, à laquelle on doit obligatoirement passer un paramètre de formatage. Alors, ce paramètre de formatage va nous permettre d'indiquer la façon dont va être représentée la date dans la variable $currentDate. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher en français, donc mettre le jour, donc pour ça, sur deux chiffres. Pour ça, on appelle le paramètre de mise en forme petit d. Ensuite, on rajoute un slash avec un petit m pour afficher le mois sur deux chiffres également. Et enfin, on affiche l'année sur quatre chiffres avec le Y majuscule. Tout ce qui nous reste à faire, c'est ajouter derrière le titre que nous avions précédemment le contenu de la variable currentDate, $currentDate. Pour ça, on va utiliser l'opérateur de concaténation. Donc en PHP, c'est un simple point. Et on va rajouter currentDate. Alors si on restait comme ça, on aurait MVA-ma-liste de films et juste derrière la date. Ça ne va pas être très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici ma liste de films du avec un espace et la date apparaîtra donc ainsi plus proprement. On enregistre, on va retourner dans le navigateur et en réactualisant, on voit bien que la date de notre liste de films, la date courante de notre liste de films apparaît correctement. Alors ensuite, je vais faire avec vous un petit point sur les commentaires. Alors, quand on développe tout seul dans son coin un projet qui dure 2 jours, on peut éventuellement se passer de commentaires, mais si on travaille sur un projet qui s'étale davantage dans le temps ou qui doit faire intervenir d'autres développeurs, eh bien il est primordial en effet de commenter son code. C'est ce que nous allons faire ici. En PHP, les commentaires de simples lignes commencent toujours par un double slash. Et ici, on va indiquer ce que contient la variable qui se situe juste en dessous, contient la date courante. Voilà, on va faire la même chose pour $title. On va commenter, contient le titre de la page. Voilà, Toujours important ici de venir rajouter du commentaire pour expliquer ce qu'on fait, pour que éventuellement un autre développeur puisse s'y retrouver, ou même nous-mêmes, quand on revient sur un projet qu'on a laissé depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est toujours pratique pour s'y retrouver plus rapidement. Alors en PHP, on peut aussi écrire des commentaires multilignes. Pour ça, on les commence par slash étoile et on va les terminer par étoile slash. Et en général, on place toujours un code multiligne comme ça en tête de fichier pour expliquer ce que fait l'ensemble du fichier sur lequel on est en train de travailler. Donc ici, on va dire que cette page va permettre d'afficher une liste, on peut revenir à la ligne, on est sur du multiligne, de films récemment sortis au cinéma. Voilà, on peut terminer comme ceci. Alors parfois vous rencontrerez des commentaires multilignes formatés un peu différemment pour rendre la chose un petit peu plus jolie. Voilà, on peut aussi formater ce commentaire multiligne de cette façon. Alors, ce que nous allons faire, c'est maintenant rajouter dans notre projet un fichier CSV qui va contenir les données des films que nous allons afficher dans notre page. Alors, pour rajouter un fichier, on va faire un clic droit sur le nom de notre dossier de projet et on va aller chercher la commande Add existing file de façon à aller la récupérer. Voilà. Alors bien sûr, ce fichier CSV sera joint à cette présentation, à cette vidéo. Donc vous pourrez le récupérer sans souci. On va regarder un petit peu ce que contient ce fichier CSV très rapidement. Donc on voit que la première ligne contient ici les titres des colonnes. Ensuite, à partir de la seconde ligne, on va avoir le premier film, puis à la ligne 3, le second, et ainsi de suite. Donc ça, il faudra en tenir compte dans le développement PHP que nous allons faire pour afficher la liste des films. Il faudra omettre d'afficher cette ligne-là qui n'est pas le contenu d'un film, mais encore une fois, qui représente le titre des colonnes qu'on avait au départ dans le fichier Excel et qu'on a exporté au format CSV et qu'on retrouve donc ici. Donc faut vraiment en tenir compte dans le cadre de notre développement. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi supprimer cette ligne du fichier CSV pour simplifier la vie. Mais l'idée, c'est aussi que je puisse vous montrer un certain nombre de choses, en particulier la notion de condition en PHP. Donc je laisse cette ligne volontairement. Alors, pour pouvoir traiter la liste de nos films dans cette page, il va falloir qu'on les stocke quelque part. Et ce que nous allons faire, c'est stocker ces films dans une variable qu'on va appeler $data. Et cette variable va pas être cette fois-ci une chaîne de texte, puisqu'on ne pourrait pas du coup stocker de la donnée à l'intérieur, mais un tableau, un array en PHP, qui va permettre de stocker l'ensemble des éléments de nos films. Un tableau fonctionne comme une armoire dans laquelle on aurait plein de tiroirs, et chacun des tiroirs va contenir les données d'une ligne de notre fichier CSV. Donc là aussi, hein, comme on l'a vu, ça peut être bien de commenter un petit peu, contient là les données des film. Alors ça va venir, hein, pas encore, mais avec ce que nous allons faire maintenant, on va pouvoir en effet récupérer ligne par ligne le contenu de notre fichier film CSV et injecter chacune de ces lignes dans notre tableau $data. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Dans l'ordre, il faut qu'on ouvre le fichier film CSV. Donc on va utiliser pour ça une fonction native de PHP qui s'appelle fopen. Ensuite, on va mettre en place une boucle qui va parcourir chacune des lignes de ce fichier pour les injecter dans notre tableau de données $data. Et ensuite, il faudra terminer en s'assurant que le fichier sera bien fermé grâce à la fonction fclose. Alors on y va. On va appeler la fonction fopen. fopen attend un premier paramètre qui correspond au nom du fichier qu'on veut ouvrir, donc ici c'est CSV, et un second paramètre qui va être le mode d'ouverture de ce fichier. Donc nous, ce fichier-là, on veut simplement pouvoir lire, le lire, on ne veut pas pouvoir écrire dedans. Si on voulait pouvoir écrire dedans, on mettrait RW par exemple. Là, on met que R de façon à s'assurer que le fichier ne sera uniquement accessible qu'en lecture. OK, donc là, on a appelé l'ouverture d'un fichier, mais il faut qu'on puisse traiter ce fichier. Il se trouve que fopen va renvoyer une ressource qui va être reliée au fichier. Donc cette ressource, on va l'appeler $handle. Et en cas de problème, fopen va renvoyer false. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'assure que tout s'est bien passé à l'ouverture du fichier. Et il faut qu'on vérifie que cet ensemble, ici, eh bien, soit différent de false. Donc qui est un booléen. Alors pour s'assurer que ce soit différent de false, il faut faire appel à la condition if. Hein, on ouvre ensuite une accolade, il me propose la fermeture de l'autre accolade, j'appuie sur Entrée pour revenir à la ligne et me retrouver correctement indenté. Donc une fois que ça c'est fait, il faut qu'on mette en place une boucle. Et ici, il existe plusieurs types de boucles en PHP. Il y a le for, il y a le for each, et il y a aussi le while, il y a même le do while. Et ce que nous allons utiliser ici, c'est une boucle while qui va s'exécuter tant que la condition qui se trouve à l'intérieur de cette boucle while est vraie. À partir du moment où cette condition ne sera plus vraie, alors la boucle s'arrêtera. Donc ce que nous devons faire, c'est écrire ce while et dans les parenthèses qui suivent, intégrer la condition qui va permettre que cette boucle va continuer de s'exécuter. Alors je rajoute à nouveau d'autres parenthèses et dans lesquelles je vais écrire une première variable qui correspond à la ligne qui va être renvoyée par la fonction PHP qui suit, c'est fgetCSV. Alors fgetCSV est une fonction PHP qui va nous permettre de traiter chacune des lignes et de la transformer elle-même en tableau. Ce qui fait qu'au final, $ va donc être elle-même une variable qui va contenir un tableau, et ce tableau, pour chacune des lignes, va être à son tour envoyé au final dans la variable $data. On aura donc en arborescence un tableau qui contient une liste de tableaux. Comme premier paramètre attendu par fgetCSV, c'est la variable handle qui contient donc la ressource liée au fichier que nous avons ouvert juste précédemment. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le nombre de lignes maximale autorisée pour le fichier que nous sommes en train de traiter. Alors là, je mets volontairement une grande valeur. Ce second paramètre n'est pas obligatoire. Ensuite, le troisième paramètre, qui est facultatif également, c'est le séparateur des différentes valeurs de chaque ligne. Alors si on regarde à nouveau notre fichier CSV, on voit très bien en effet que le séparateur de chacun des éléments de chaque ligne, c'est bien la virgule hein, qu'on retrouve ici au niveau des données des films. Voilà. On retourne dans index.php. Donc le séparateur qu'on indique, c'est bien ici la virgule. Alors il faut qu'on s'assure que fgetCSV retourne toujours un tableau et non pas un peu comme fopen, une valeur booléenne false. Donc on va rajouter ici derrière le comparateur différent de, strictement différent de false, qui va nous permettre d'exécuter cette boucle while tant que, en effet, il y a des lignes présentes dans le fichier que nous sommes en train de lire. On rajoute l'accolade ouvrante et fermante. Et ensuite, à l'intérieur de cette boucle while, il nous faut envoyer la variable row à l'intérieur de la variable data. Alors le truc, c'est qu'il faut que ici on rajoute chacune des lignes à l'intérieur de notre variable $data et pas qu'on remplace. Donc pour ajouter une donnée à l'intérieur d'un tableau, eh bien il faut utiliser une des deux solutions que je vais vous montrer maintenant. Alors la première, c'est d'utiliser un hurry-push qui va attendre comme premier paramètre en référence la variable du tableau dans lequel on veut écrire, et ensuite le nom de la variable qui contient ce qu'on veut envoyer dans la variable $data, dans le tableau conteneur. Voilà, alors ici je reviens juste sur la notion de référence en ajoutant ici ce et commercial ou cette esperluette devant $data. On est en train de dire au moteur d'exécution PHP que cette variable elle existe déjà et que je veux y faire référence. Donc ça va permettre d'envoyer directement dans la variable $data sans avoir à créer une variable locale supplémentaire, d'envoyer directement le contenu de la variable $row dans la variable $data. Voilà donc comment indiquer que l'on fait référence à une variable. Et ça, c'est imposé par la signature de la fonction hurry-push. Elle attend systématiquement comme premier paramètre un tableau en référence. L'autre solution, donc on va mettre ça en commentaire, puisqu'on va utiliser plutôt l'autre solution, qui est une écriture plus concise, c'est simplement ici de rappeler la variable $data, de passer ici derrière deux crochets, un crochet ouvrant, un crochet fermant. C'est ça qui va nous permettre d'indiquer qu'on veut faire de l'ajout à l'intérieur de cette variable $data. Et ensuite de passer derrière, en affectation, la variable $row. Voilà, ça c'est la solution la plus courte en écriture. Donc là on a bien compris qu'on avait ouvert le fichier, qu'on allait parcourir pour chacune des lignes du fichier film.csv, et que pour chacune de ces lignes, on allait l'envoyer dans le tableau $data. Alors il manque une chose, c'est la fermeture du fichier. Ça c'est très important, parce que sinon la ressource $handle va continuer d'exister pour rien, alors que le traitement sur le fichier est terminé. Au-delà de ça, il y a aussi des notions de sécurité qui rentrent là derrière. Alors, la fonction qui permet de fermer une ressource liée à un fichier, c'est la fonction fclose, à laquelle on repasse la variable $handle, donc la ressource liée à l'ouverture de notre fichier. Voilà. A priori, toutes les données de notre fichier film.csv devraient se trouver à l'intérieur de notre variable $data. Mais on voudrait quand même s'en assurer. Là, si je retourne dans mon navigateur, que je fais une actualisation de ma page, on voit aucune différence. En effet, on n'affiche rien de plus. Ici, on n'a fait que des traitements qui sont transparents pour l'affichage final. Donc pour s'assurer que dans $data, il y a bien les données qui nous intéressent, on va appeler la fonction, une des fonctions de débugage de PHP, c'est la fonction vardump, qui va nous permettre de visualiser le contenu de cette variable. Et ça, on peut le faire pour n'importe quel type de variable. On enregistre, on revient ici, on réactualise et on voit que visiblement, il y a bien quelque chose dans notre tableau. Alors si on veut en voir une version un peu mieux formatée, le mieux c'est de faire appel à la source de cette page. Et on va constater qu'on a bien affaire à un tableau, donc ça c'est $data, qui contient 11 entrées, dont la première entrée sur l'index 0 est elle-même un tableau, on le voit ici, qui contient 9 valeurs. Et cette première entrée, on voit qu'il s'agit de la ligne des titres de colonne. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la première donnée concernant un film, n'arrive que la deuxième entrée du tableau $data qu'on a ici. Et on voit ici les informations sur le premier film. Donc là, on a bien les données qui nous intéressent. On retourne dans WebMatrix et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en commentaire cette fonction de débugage. Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit au sein du module 2. Vous voyez ici qu'on a été obligé d'utiliser une fonction de débugage pour visualiser le contenu de la variable $data. Si on avait été dans un IDE un petit peu plus évolué, comme Visual Studio par exemple, ou Eclipse, ou NetBeans, qu'on peut exploiter sur l'ensemble des plateformes, Mac, Linux ou Windows, on a la possibilité de placer des points d'arrêt. Et c'est vraiment la meilleure méthode pour débugger et s'assurer, sans avoir à modifier le code, que tout s'exécute correctement. Ça peut être aussi utile lorsqu'on a des erreurs pour savoir comment les corriger. Voilà, donc là, dans WebMatrix, on n'a pas cette possibilité-là, donc on a fait comme ça. Ensuite, il faut que nous affichions le contenu de notre variable $data dans notre code HTML. Donc on va descendre plus bas dans notre page au niveau du code HTML. Et ce que nous avons à faire ici, c'est de placer une liste en ULI. Et donc nous allons rajouter tout de suite les balises UL, et à l'intérieur de ces balises UL, ouvrantes et fermantes, on va mettre en place une boucle PHP qui va nous permettre d'afficher l'ensemble des LI pour chacun des films qui est contenu dans la variable $data. Donc pour ça, on est contraint, sinon le code PHP s'exécutera pas, d'ajouter les balises d'exécution de code PHP et d'aller chercher cette fois-ci une boucle for. Donc for, on ouvre les parenthèses, on initialise une variable $i à 0. Derrière, on dit que cette variable $i, elle va être incrémentée, donc on va lui ajouter 1 tant que $i est inférieur au nombre total d'éléments contenus dans notre tableau $data. Pour ça, on va aller chercher la fonction count qui permet d'aller chercher le nombre d'éléments contenus dans $data. Et pour terminer, on dit que tant que cela est vrai, on incrémente $i de 1. Alors normalement, comme pour la boucle while, eh bien, on devrait ouvrir une accolade et la fermer. En général, quand on utilise des boucles ou des conditions dans du code HTML, eh bien, on va plutôt utiliser en PHP une syntaxe alternative. Cette syntaxe alternative, elle utilise derrière l'élément de départ de la boucle, derrière le for, en ce qui nous concerne là, les deux points. Et puis, pour terminer la boucle, on va réouvrir des balises de code PHP et on met un end for. Voilà, point virgule. Si on avait une boucle for each, on aurait un end for each. Si on avait un while, on aurait un end while. Si on avait une condition if, on aurait un end if, par exemple. Ensuite, il faut que, à cet endroit-là, on affiche nos éléments LI. Alors, voilà, on y va. Et puis, à l'intérieur de ces éléments LI, nous allons afficher le contenu de l'élément courant. Donc pour ça, on fait un écho, $data, l'élément courant, donc la ligne courante contenue dans notre variable $data, on peut la trouver en indiquant l'index courant, c'est-à-dire $i. Et ce qu'on souhaite afficher, c'est simplement pour le moment le titre de notre film. Je vous disais tout à l'heure que chacun des éléments contenus dans $data est lui-même un tableau. Et dans ce tableau, si on re-regarde notre fichier film.csv, dans ce tableau, le titre, c'est le deuxième élément. Et on a déjà vu que dans un tableau, les index commencent à 0. Donc l'index qui m'intéresse ici, ce n'est pas le premier, puisque le premier contient les identifiants des films. Or, ce n'est pas ça que je veux afficher, c'est le titre. Donc c'est l'identifiant 1 que je dois indiquer ici dans la deuxième série de crochets. Ça va me permettre en effet d'afficher mon titre. Alors, on a terminé, on va tester, voir si tout s'affiche correctement. On rafraîchit et voilà, j'ai bien ma liste de titres de films qui s'affichent. On s'aperçoit quand même qu'il y a un petit souci avec le premier élément. J'ai ici la première ligne contenue dans Dollar Data qui est affichée, c'est Title. Donc ça correspond au titre de colonne dans mon fichier CSV. Celui-ci, je ne veux pas l'afficher. Je ne veux pas l'afficher, donc je vais utiliser une condition que je vais placer à l'intérieur de ma boucle for et qui va me permettre de dire « Tu ne m'affiches le titre du film que si je suis... » que si $i est strictement supérieur à 0. Donc on veut afficher les lignes à partir de la deuxième ligne, donc c'est l'index 0 qu'il faut masquer, et à partir de l'index 1 on veut en effet afficher nos titres de film. Donc on va rajouter cette condition ici, on fait if. Et on va faire une vérification sur la valeur de $i et on va s'assurer que cette valeur de $i est strictement supérieure à 0. On utilise toujours les deux points comme notation. Et c'est qu'à cette condition que on va afficher notre li. Donc du coup, là, la première ligne ne s'affiche plus. On vérifie dans le navigateur. Voilà, c'est impeccable. La première ligne n'est plus affichée. Et je commence à afficher à partir de la deuxième ligne de mon fichier CSV. C'est-à-dire à partir du premier film. Alors, on va continuer un tout petit peu. Et on va rajouter dans notre code HTML, derrière la balise H1, on voudrait afficher ici, dans une balise H2, une phrase qui va indiquer le nombre courant de films qui sont actuellement affichés. Donc pour cela, on va utiliser une nouvelle fonction PHP qui s'appelle printf. Voilà, on met tout de suite les points virgules derrière. Grâce à printf, je vais pouvoir envoyer dans une chaîne de texte des valeurs qui sont situées en deuxième, troisième, quatrième, etc. paramètres. Donc ici, la phrase que je veux indiquer, c'est « Il y a actuellement... » Alors là, c'est le nombre de films qu'on va essayer de récupérer dynamiquement ensuite. « Films disponibles. » Voilà, avec deux points comme ceci. Alors ce qu'il faut qu'on rajoute comme second paramètre, c'est le nombre d'éléments... enfin, en tout cas, le nombre de films effectivement présents dans ma variable $data. On a vu que dans $data, il y avait aussi la première ligne, la ligne des colonnes. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on appelle count, qui m'a permis de remonter, comme tout à l'heure, le nombre d'éléments contenus dans $data. Mais il faut qu'on retire 1 à ce résultat, puisqu'on ne veut pas compter dans le nombre de films la première ligne, qui ne contient pas de films, mais le titre des colonnes. Alors pour injecter le résultat de ce calcul dans ma phrase ici, il ne faut pas que je laisse un triple X, mais il faut que je mette %S. C'est ça qui va permettre à PHP d'aller envoyer la valeur qui résulte de count $data-1 dans cette phrase. Donc ça va servir de repère. On enregistre. On revient dans le navigateur et on voit que, en effet, j'ai bien le nombre de films effectivement contenus dans ma variable $data qui s'affiche dynamiquement. Ensuite, si on veut être très propre, on pourrait se retrouver dans une situation où dans film CSV, je n'ai plus du tout de films, voire plus de données du tout. Pour éviter une erreur d'exécution ou un affichage maladroit, eh bien, on va rajouter une condition dans notre code HTML qui va nous permettre de vérifier qu'on a bien quelque chose dans $data. Et si on n'a rien, on va afficher une phrase qui nous dit simplement qu'il n'y a pas de film actuellement accessible ou disponible. Alors allons-y, on va rajouter cette première condition avant le sous-titre contenu dans les balises H2. Donc hop, les balises d'ouverture du code PHP, appel à une condition, et là on fait un test qui vérifie que dans count$data, j'ai bien au moins une entrée, parce que la ligne des titres, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a des films. Ensuite, on va venir ici après la fin de la liste. Et on a dit que si jamais on avait en effet 0 ou une entrée dans la variable $data, on affichait une autre phrase qui dit attention, je n'ai pas de film actuellement accessible. Donc pour ça, on va indiquer un else. Et ensuite, on va terminer notre condition en faisant un NIF, puisqu'on est toujours dans la syntaxe alternative. Et là, simplement, dans le else, on va afficher notre phrase qui dit il n'y a pas de film actuellement disponible. Donc là, pas besoin de mettre ça dans du code PHP, hein. C'est une phrase qui n'a pas besoin d'exécution PHP. Alors on va vérifier que ça n'a pas d'incidence sur notre page actuelle. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire un petit essai en dégageant temporairement tout ce qu'on a dans le fichier film.csv. Et rafraîchir notre page pour vérifier qu'en effet notre condition s'exécute correctement. Donc même si j'ai rien dans mon fichier CSV, eh bien ma page continue à avoir un comportement qui est à peu près propre. On revient dans notre fichier index.php. Alors maintenant, ce qu'on aimerait, c'est améliorer un tout petit peu la présentation de notre page. Alors c'est vrai que bon, on va l'afficher en entier. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très folichon. On va essayer d'améliorer tout ça un tout petit peu. On ira un peu plus loin dans le module qui suit. Alors, pour améliorer la présentation de notre page web, eh bien, nous allons télécharger un framework CSS qui est de plus en plus utilisé dans les applications web, applications et sites web d'aujourd'hui. Et ce framework CSS s'appelle Bootstrap. Alors pour le récupérer, c'est pas bien compliqué. Il suffit de faire une petite recherche dans votre moteur de recherche préféré. Voilà, et je vais tomber sur le premier lien, c'est celui-ci qui m'intéresse. Je clique en haut à gauche dans la navigation pour revenir à l'accueil, puis ensuite sur le bouton Download Bootstrap. Et à nouveau sur ce même bouton Download Bootstrap. Il me propose de télécharger une archive zip que j'enregistre sur mon bureau. Voilà, c'est presque fini. Très bien. On peut fermer ceci. Ce qu'on va faire, c'est décompresser cette archive ici. Ça va nous ouvrir un répertoire dist dans lequel je vais trouver tout ce dont j'ai besoin pour intégrer ce framework CSS à l'intérieur de notre page web. Alors ce qu'on va faire, c'est sélectionner ces trois dossiers CSS, fonts, CJS et les intégrer par copier-coller à l'intérieur de notre projet. Alors pour ceux qui sont sous Mac et Linux, le principe est quasiment le même, hein. Il suffit de faire un copier-coller de l'ensemble de ces dossiers au même endroit où se trouve, dans le même dossier où se trouve votre fichier index.php. Alors on fait copier, CTRL-C au clavier, et ensuite on revient ici et on fait simplement coller ou paste pour ramener l'ensemble des fichiers qui composent le framework Bootstrap. Alors, c'est bien, on l'a intégré dans notre projet, mais le truc c'est que, évidemment, maintenant il faut faire appel au moins au fichier CSS que nous propose Bootstrap. Alors, si on regarde ce que contient le répertoire Bootstrap, je vois qu'ici j'ai un ensemble de fichiers CSS. Celui qui m'intéresse, c'est le Bootstrap CSS. Et nous, pour limiter le chargement, eh bien, on va utiliser la version minifiée de ce fichier CSS. Pour ça, dans le code HTML, donc là c'est pas du PHP, c'est du HTML pur et dur, on va aller chercher la balise link pour faire une référence au répertoire CSS qui contient lui-même le fichier en version minifiée CSS qui nous intéresse. Et derrière, donc il faut indiquer qu'on a affaire à de la feuille de style CSS. Voilà. On enregistre. Et si on va voir notre page web, qu'on réactualise, on voit déjà qu'il y a des petits changements. On a la police qui a été modifiée. On a des marges qui sont un petit peu rajoutées ou d'autres qui ont été supprimées sur la gauche. Donc, on voit bien que le Bootstrap CSS a commencé à faire un petit peu son travail. Alors, pour profiter un petit peu plus de ce Bootstrap, parce que là, c'est quand même assez limité ce qu'on a fait, eh bien, on va rajouter un conteneur CSS, un conteneur div, pardon, qui va contenir la classe CSS Container. Et celui-ci, on va le positionner tout de suite après la balise d'ouverture body. Voilà, donc on fait un div classé container. Voilà. Et on a dit que l'ensemble du contenu de la balise body doit se retrouver à l'intérieur de cette balise div. Donc pour ça, on va déplacer la balise de fermeture du div tout en bas du code HTML juste avant la balise de fermeture body. Alors ici, on voit que pour remettre en forme le code, à la fois le code HTML et le code PHP d'ailleurs, eh bien, on a des petits raccourcis clavier qu'on peut utiliser. Ça dépend directement de l'éditeur ou de l'IDE que vous utilisez. Mais ici, dans WebMatrix, on le fait en faisant CTRL-K puis D. Voilà, donc ça nous permet très rapidement de retrouver une lecture plus aisée. Alors si on retourne à nouveau dans notre navigateur, qu'on réactualise la page, on voit que là aussi des modifications ont eu lieu, les marges semblent s'être encore modifiées, et en fait le site ici, en plaçant ce conteneur, ce div container, eh bien, permet que le site se retrouve toujours au centre de notre page web, quelle qu'en soit la largeur, avec une gestion intelligente de son positionnement et des marges. Voilà. Donc ça, c'est l'effet de cette balise div avec la classe container que nous venons de positionner, qui fait son action. Alors on va rajouter également un petit peu de texte juste après la balise H1. On va rajouter un paragraphe dans lequel on va mettre une phrase, c'est juste pour avoir un petit peu plus de contenu, qui dit voici la liste des films que j'aime et qui sont sortis récemment au cinéma. Très bientôt. Dans le module suivant, on peut revenir à la ligne, nous apprendrons à créer une page de détail qui va nous permettre de visualiser les informations d'un film. Voilà, on peut se contenter de ça, on revient dans le navigateur, on réactualise, voilà, notre paragraphe est bien présent. Ça nous sera utile, ça surtout pour la suite de ce cours dans le module numéro 4. Alors, on va également rajouter une navigation en partie supérieure de notre page. Et pour ça, on va ajouter dans le code HTML toujours, et juste après la balise d'ouverture body et avant la balise div classée container, une balise nav, donc qui est une balise HTML5, qui est faite pour positionner de la navigation. Mais pour que sa mise en forme soit gérée par Bootstrap, eh bien, il faut qu'on lui ajoute un certain nombre de classes. La première, c'est Navbar. La seconde, qui va permettre de définir son apparence, c'est Navbar Default. Voilà, on va lui indiquer un rôle aussi, rôle de navigation. Ensuite, à l'intérieur de ce tag de navigation, on va rajouter un nouveau. Une classe, un conteneur div classé avec une classe container. À l'intérieur, on ajoute encore un autre div avec les classes collapse, puis navbar-collapse. Alors, tout ça, encore une fois, c'est pour que le Bootstrap CSS puisse faire son action et assurer la mise en forme comme il faut. Et enfin, à l'intérieur de ce dernier conteneur, on rajoute une balise UL à laquelle on va ajouter l'attribut classe avec les classes nav et navbar-nav. Ensuite, on va rajouter dedans DLI avec pour la première une classe active qui va permettre d'assurer une mise en forme différente pour ce premier item. Ce qui permettra visuellement de le repérer, ça correspondant en réalité à l'item courant de notre navigation. Ensuite, dedans, on va mettre des a href. Alors, le premier va pointer vers la racine de notre site, donc on met simplement un slash, et à l'intérieur, on va rajouter film. Alors, donc, c'est le lien qui va nous permettre d'accéder à la liste de nos films. On rajoute ensuite un deuxième élément li avec non pas de classe, juste un li. Dedans, à nouveau un href. Bon, pour l'instant, là-dedans, on met que des dièses. On rajoute des éléments qui sont un peu factices, mais pour alimenter un peu notre barre de navigation. On va dire que là, par exemple, ça pourrait être une page à propos, et puis une dernière page peut-être, voilà, avec toujours un dièse, qui serait une page de contact. Voilà, eh bien, on va regarder ce que ça donne. Donc, ce qui est vraiment sympa avec Bootstrap CSS, on le voit ici, c'est que en ajoutant simplement du code HTML et en indiquant dans les balises de ce code HTML les classes qui sont traitées et attendues par Bootstrap, eh bien Bootstrap va être capable d'assurer une mise en forme très rapidement, très simplement, sans avoir à faire un gros effort d'intégration HTML et CSS. Voilà, nous en avons terminé avec ce troisième module. Alors notre site web a commencé, un petit peu avancé. Mais on aimerait que sa présentation, d'une part, s'améliore un peu, mais surtout, on aimerait qu'au survol ici de nos titres de films, au clic plutôt, on puisse avoir accès à une page de détail. Et c'est dans le module suivant que nous assurons ces deux choses, c'est-à-dire l'amélioration de la présentation d'une part et la création de cette page de détail d'autre part. Encore une fois, à bientôt pour la suite de ce cours.